ce soir, on va poursuivre notre voyage dans le sud profond des États-Unis à la découverte d'une des sources méconnues de la musique soul, la petite ville de Muscle Shoals dans l'Alabama, et ça réserve des surprises. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let in your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made, made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you'll begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder, for you know that it's a fool. You found her, now go on out and get her. But remember to let her in your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You waited for someone to cette chanson, évidemment, vous la connaissez, mais pas forcément sous cette version. Elle est due à l'explosif Wilson Pickett, un des plus grands noms de la musique soul, et a été diffusée en 1969, peu de temps après la sortie de Hey Jude, créée par Paul McCartney avec les Beatles. Hey Jude, qui a d'ailleurs été un des plus grands succès de leur histoire, alors qu'on commençait déjà sérieusement à les enterrer. Plusieurs choses à dire sur cette version. D'abord, elle a été gravée au studio Fame de Muscle Shoals dans l'Alabama, d'où sa présence dans ce programme consacré aux enregistrements aussi riches que méconnus réalisés là-bas au cours des années 60 et 70. Alors, comme je vous le racontais dans l'émission d'hier, les amateurs de musique soul sont bien plus familiers des studios Stax, hein, créés dans la ville plus importante, avoisinante de Memphis. Stax, avec ses prestigieux studios, sa célèbre rythmique, sa fameuse section de cuivre, les Memphis Horns, et ses chanteurs entrés dans la légende, Otis Redding en tête. C'est vrai, rien ne prédestinait la petite ville léthargique de Muscle Shoals, qui est au nord-ouest de l'Alabama, hein, toute proche des deux frontières avec le Tennessee au nord et le Mississippi à l'ouest, à être un carrefour où toutes les musiques noires, blanches et amérindiennes aussi allaient se rencontrer. D'autant que l'Alabama a été longtemps dirigé par un gouverneur ouvertement raciste, George Wallace, qui estimait, et d'ailleurs son électorat avec lui, que la ségrégation était un état destiné à durer éternellement. Mais enfin, il y a eu ce jeune campagnard blanc, Rick Hall, hein, je vous en ai longuement parlé hier, qui a eu une vision. En créant les studios Fame, il a placé la ville de Muscle Shoals au cœur de la musique soul. Soul, pas seulement, vous allez l'entendre ce soir et demain. D'ailleurs, peut-être était-ce prédestiné, puisque le nom du fleuve Tennessee, au bord duquel se situe cette petite ville, Muscle Shoals, signifie dans la langue de la tribu indienne qui en peuplait les parages, le fleuve qui chante. Voilà, alors une chose importante encore au sujet de cette version de Hey Jude par Wilson Pickett, le guitariste qu'on entend prendre un solo échevelé sur sa Fender Telecaster, c'est Duane Allman, le fondateur du fameux Allman Brothers Band, un groupe qui s'est situé au croisement du rhythm and blues, du jazz et de la country. Duane Allman que Rick Hall avait intégré à la fin de l'année 68 à l'équipe légendaire des accompagnateurs de Muscle Shoals, les Swampers, hein, on aura l'occasion d'en reparler. Un dernier mot sur l'étonnant Wilson Pickett. Déjà, alors il y a un détail curieux à souligner, vous l'avez peut-être relevé, son interprétation de Hey Jude est extrêmement fébrile, on pourrait même dire presque sexuelle. Et ben c'est parce qu'en fait, il croyait que Jude, qui est en fait le diminutif de Julian, le fils de John Lennon, était un prénom féminin. Et oui, alors ça l'a inspiré. Alors, Rick Hall était absolument fasciné par Wilson Pickett, une des plus grandes stars de la musique soul en son temps. Il faut dire que comme lui, Pickett, qui était un enfant du gospel, avait passé ses premières années dans l'Alabama rural avant de partir rejoindre son père, qui travaillait dans l'automobile, à Détroit, et d'y réussir tout de suite comme chanteur. Cela dit, c'est en retournant dans le sud et en enregistrant d'abord au studio Stax à Memphis, puis à Muscle Shoals, que Pickett est devenu une superstar. Il y avait comme une alchimie entre Rick Hall et Wilson Pickett qui considéraient que les studios de Muscle Shoals étaient absolument magiques. Pickett fascinait aussi Rick Hall pour d'autres raisons, parce que c'était une tête brûlée, c'est pas pour rien qu'on le surnommait The Wicked Pickett, hein, le vilain Pickett ou Pickett le vicieux. C'était en effet un homme violent et impulsif qui était capable, hein, l'histoire est avérée, de frapper et d'arracher de son siège un batteur qui jugeait faiblard en studio. Il lui arrivait aussi d'aller au concert de ses rivaux juste dans le but de leur dévisser la tête à la sortie, parce qu'il aimait pas avoir de concurrence. Et aussi Rick Hall se rappelle un soir avoir vu sa dernière heure arriver quand Wilson Pickett l'a conduit à 120 à l'heure dans les rues de New York. Et oui, c'était une époque qui était un peu inverse de la nôtre, où on aimait vivre dangereusement. Alors ce soir, on va revivre les grandes heures des studios de Muscle Shoals, qui ont connu en fait une histoire complexe, puisque leur célèbre section rythmique a fait sécession en 1969, pour créer ses propres studios concurremment à Rick Hall. Je vous en reparlerai, bien sûr. Tout de suite, un exemple de leur grand talent d'accompagnateur avec les Staples Singers. Les Staples Singers, c'est une formation composée d'un père et de ses trois filles, née à Chicago, qui a été la plus populaire du gospel de l'après-guerre, gospel auquel elle a mêlé tous les styles blues, folk et rhythm and blues. Ce titre des Staples Singers, I'll Take You There, a été enregistré à Muscle Shoals en 1972.
Come on, come on. I want a good
Tight Good Man, l'exigence d'une femme, Laura Lee. En 1967, elle veut, je la cite, un homme fier et courageux, il n'a pas besoin d'être beau, juste deux bras et qui la serrent. Et elle ajoute ceci en parlant, ce qui a une certaine résonance dans l'actualité. Beaucoup d'hommes croient qu'on peut maltraiter les femmes, les utiliser, mais nous les femmes, on ne doit pas oublier que ceux qui nous dominent peuvent se retrouver à terre. Bon, je ne sais pas tout à fait le mot à mot, j'interprète un peu, mais enfin c'est l'idée. En 67, c'était courageux. Laura Lee venait comme Aretha Franklin du gospel et comme son illustre aînée, elle avait chanté à Détroit et tout comme celle-ci, elle avait fait le voyage à Muscle Shoals en quête de ce son soul du sud aussi âpre que sobre et retenu, proche des racines du gospel. Muscle Shoals a attiré, on l'a entendu avec les Staple Singers, les plus grands noms du gospel désireux de s'ouvrir à d'autres publics grâce à une musique séculière capable de séduire toutes les oreilles. Alors, bien sûr, pas besoin d'être religieux pour apprécier la musique soul, même s'il faut jamais perdre de vue la nature spirituelle de cette musique et des voix qui la servent. Et parmi ces grands interprètes formés par le gospel, il y avait un certain Lou Rawls, un immense chanteur qui avait grandi dans le sud de Chicago. C'est là qu'il avait rencontré celui qu'il considérait comme son maître, l'immense Sam Cooke, qui fut le premier à avoir franchi le pas, un pas alors scandaleux aux oreilles de certains croyants, du gospel vers la soul séculière. Lou Rawls avait remplacé Sam Cooke au sein d'un groupe vocal avant de voler de ses propres ailes, et cet immense chanteur au très beau timbre, à la façon de chanter très swingante, s'est surtout illustré dans un style plutôt jazzy, mais toute sa vie, il est resté fidèle au répertoire de son maître, Sam Cooke, dont il a repris magnifiquement en 1970 à Muscle Shoals, au studio Fame de Rick Hall, le très beau Bring It On Home, autrement appelé Bring It On Home To Me, dont en Angleterre, Eric Burdon avait chanté une version mémorable avec les Animals en 65. Mais ce soir, c'est la version de Lou Rawls que vous écoutez sur France Inter.
If you ever change your mind about leaving, me behind, hey my baby, won't you bring it on home? Bring your sweet loving. Bring it on home to me. Back where you ought to be, yeah. Bring it home to me. If you ever change your mind about leaving, me behind, hey baby, or won't you bring it on home? Bring your sweet love. That's where you ought to be. I'll give you jewelry, money too, and that ain't all. All I'll do for you, hey, won't you bring it on home? Bring your sweet loving, bring it on home to me. Bring it home to me. I need it. I can't go on without it.
Éric Boutry sur France Inter, Mishka Assayas.
So you got my number, so you pin me down. Yes, you grab my meaning, and you been around. Well, I'm easy. Hey, I'm simple like a fool. Yeah!
Un musicien américain qu'on a un peu oublié, et c'est dommage, Buzz Skaggs dans I'm Easy, la chanson par laquelle s'ouvre l'album sans titre qu'il a publié à l'âge de 25 ans en 1969 et qu'il a enregistré avec l'équipe des musiciens de Muscle Shoals. Enfin, de Muscle Shoals, la ville, oui, mais pas des studios Fame que ceux-ci venaient de quitter en conflit avec Rick Hall. Je vais y revenir. Alors, quelques mots d'abord sur ce Buzz Skaggs, un cas intéressant puisque cet excellent guitariste s'est formé à la fois dans le Texas, où il a grandi, le Midwest américain où il a été étudiant, et puis l'Angleterre, enfin Londres, où ce sont curieusement des musiciens anglais comme Eric Clapton qui lui ont donné envie de se consacrer au blues. D'ailleurs, c'est aussi une envie qu'ils ont donnée à son grand copain Steve Miller, également présent à Londres à la fin des années 60. Buzz Skaggs a eu des débuts difficiles, en tout cas bizarres. C'est vrai, un Américain qui fait à 19 ans le voyage du Texas vers l'Angleterre avec des rêves de réussite avec son groupe, c'est peu fréquent. Bah oui, l'inverse était bien plus habituel. C'était des jeunes Anglais qui rêvaient de réussite aux États-Unis, témoins les Beatles, les Stones et plein d'autres, évidemment. Quoique, il y ait eu d'étranges exceptions comme Scott Walker, un Américain devenu une idole à Londres au milieu des années 60 avec ses deux pseudo-frères, les Walker Brothers. En tout cas, pour revenir à Buzz Skaggs, ses rêves de gloire à Londres sont vite partis en fumée et il a passé de nombreuses années à errer comme un beatnik à travers l'Europe, armé de sa guitare sèche et d'un porte-harmonica, chantant au coin des rues, ses longs cheveux dans les yeux. Jusqu'au jour où son copain Steve Miller, qui s'était alors basé à San Francisco en pleine révolution psychédélique, l'a fait revenir aux États-Unis en 1967 pour jouer dans le groupe qu'il venait de fonder, le Steve Miller Band. Buzz Skaggs, lui, avait néanmoins une idée fixe, c'était enregistrer ses propres chansons et ce qu'il est enfin parvenu à faire en signant en 1969 un contrat avec les disques Atlantic, qui l'ont envoyé où ? Eh ben oui, vous avez deviné, à Muscle Shoals. Seulement là-bas, en 69, donc l'année où Buzz Skaggs débarque sur place, la situation est complètement changée. Parce que les musiciens qui ont fait le son des studios Fame, fondés par Rick Hall à Muscle Shoals, c'est-à-dire le guitariste et ingénieur du son Jimmy Johnson, le clavier Barry Beckett, le guitariste et chanteur Eddie Hinton, et quel chanteur, hein, on le découvrira tout à l'heure, le bassiste David Hood et le batteur Roger Hawkins, eh bien, ils se sont tous ligués contre leur patron Rick Hall. Alors, évidemment, on comprend facilement pourquoi. Celui-ci a obtenu des disques Capitol un excellent accord de production et de distribution exclusive qui assure à Fame la somme annuelle de 1 million de dollars. Et Rick Hall, royalement, entend octroyer à chaque musicien un salaire annuel de 10 000 dollars. Alors évidemment, il la trouve un peu saumâtre et avec raison, il claque la porte. Ils ont un soutien de taille, c'est Jerry Wexler, c'est le blanc new-yorkais des disques Atlantic qui a déjà jeté son dévolu sur les productions du studio Stax à Memphis, et Jerry Wexler est trop content de court-circuiter Rick Hall qu'il considère non sans raison comme un individu incontrôlable qui a failli faire capoter l'enregistrement de l'album de Aretha Franklin en 67. Je vous ai raconté en détail l'histoire dans l'émission d'hier sur France Inter. Alors Johnson, Beckett, Hinton, Hood et Hawkins ouvrent en 1969 leur propre studio, le Muscle Shoals Sound Studio au 3614 Jackson Highway. Le bâtiment qu'ils investissent, ça ne s'invente pas, est une ancienne fabrique de cercueils qu'ils équipent pour la circonstance. Et Buzz Skaggs est le premier à tester ces nouveaux studios. Il est suivi de très près par la chanteuse californienne Cher, qui enregistre au printemps 1969 un excellent disque méconnu de reprise entre soul, folk et country, dont le nom est tout simplement l'adresse des nouveaux studios de Muscle Shoals, 3614 Jackson Highway. Cher y reprend entre autres un classique du musicien de la Nouvelle-Orléans Dr. John, inspiré un peu du voodoo, I Walk on Gilded Splinters.
Must be crazy. They can't see their misfortune, or else they're just too lazy. Just wheel a ground zombie with my yellow. yellow chicken choice on. I ain't afraid of no tomcat. I'm gonna fill my guts with poison. I walk through the fire and I fly through the smoke. I wanna see my enemies on the end of my rope. Walking pins and needles and I see what they can do. Walk on gilded splinters with the king of the Zulu. In my chalice, the pride begins to fade, and they all fear my malice. I put Greek on your doorstep, so soon you'll be in the gutter. I make your heart melt like butter. I say I can make you stutter.
Walk on, give it splinter.
une version moite et funky de Why Don't We Do It in the Road, un blues furieux que Paul McCartney avait écrit, composé et interprété d'ailleurs pratiquement seul pour le fameux double album blanc des Beatles paru fin 1968. Un peu plus d'un an plus tard, en 1970, c'est un musicien de blues de la côte ouest, Lowell Folsom, qui avait vu le jour d'ailleurs dans une réserve indienne de l'Oklahoma, qui reprenait ce titre avec brio, accompagné par l'équipe désormais indépendante du Muscle Shoals Sound Studio, Barry Beckett, Eddie Hinton, David Hood et Roger Hawkins. Alors parallèlement, Rick Hall, évidemment fâché à mort contre eux, estimant qu'il lui avait planté un couteau dans le dos, a eu au fait d'engager d'autres musiciens pour ses studios fame, qui ont continué, notamment le guitariste Travis Wamack, qu'on va entendre dans un titre inattendu. Alors je vous explique pourquoi il est inattendu, parce que sans doute vous vous attendez pas à entendre, dans le cadre de ce programme soul vintage sur France Inter, une famille de jeunes mormons chantant, sorte de boy band avant la lettre. Vous l'ignorez peut-être, mais dans la première moitié des années 70, cette famille chantante et musicienne, les Osmonds, a été la réponse de l'Amérique blanche au Jackson 5, le groupe où brillait déjà l'enfant prodige Michael Jackson. Les Osmonds ont suscité en Grande-Bretagne une sorte de passion collective proche de l'hystérie chez les prépubères, et certaines de leurs chansons, comme Crazy Horses, ont d'ailleurs été extrêmement populaires en France. La famille Osmond venait de la région du Grand Lac Salé, dans l'état de Utah, à l'ouest des États-Unis, et les Osmonds étaient une famille de mormons fervents. Alors c'est particulier, les mormons, vous êtes peut-être au courant, ils fument pas, ils boivent pas, donc ils consomment ni thé ni café, et ils rejettent également les jeux de hasard et aussi la pornographie. Bon, ça paraît logique. En tout cas, dans les années 60, les Osmonds apparaissaient dans un programme télévisé qui était très suivi. Ils se produisaient en costume blanc orné de chamarrures et ils dégageaient une image de bonheur et de santé qui était clairement anti-hippie et anti-contestataire. Alors ça, c'était pour l'image, mais l'intéressant, c'est que musicalement, les Osmonds, qui tentaient, comme je vous ai dit, de concurrencer les Jackson 5 dans un style pop-soul, ont enregistré dans les studios Fame. Ils ont enregistré de très bonnes choses, dont ce titre qui remonte à 1971, une chanson qui s'appelle Yo-Yo, dont l'auteur, un excellent guitariste et compositeur de Atlanta en Géorgie, s'appelait Joe South. Et Yo-Yo, bah, ça passe très bien aujourd'hui, près d'un demi-siècle après avoir été enregistré.
Just like a yo-yo,
just like a yo-yo.
Girl, it's hot for me to got home about a half past ten. There was the woman I thought I knew in the arms of another man. I kept my cool, I ain't no fool. Let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home, gotta start a new life. Well, take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer, gotta start a new life. You've been many things, but most of all, a good secretary to me. And it's times like this I feel you've always been close to me. Was I wrong to work nights to try to build a good life? All work and no play has just cost me a while. So take a letter, Maria, no, address it to my wife. Say I won't be coming home, gotta start a new life. Well, take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer, gotta have a new life. Well, a man loves a woman, it's hard to understand that she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home, gotta start a new life. Oh, take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer, gotta have a new life. Oh, take a letter, Maria.
Une curiosité qui remonte à l'année 1969, Take a Letter Maria, dû à un chanteur qui a connu un succès de courte durée, un certain Herbie Greaves. Alors son parcours a été assez étrange. Wikipédia nous apprend qu'il était le neveu du grand Sam Cooke. Peut-être est-ce une forme d'autosuggestion de ma part, mais son timbre très clair et sa façon de chanter peuvent faire penser à Sam Cooke. Herbie Greaves est né dans une base américaine au Guyana, alors une colonie britannique, et a grandi dans une réserve indienne de l'Oklahoma. Alors comment s'est-il retrouvé en Grande-Bretagne et par quel mystère a-t-il adopté un pseudonyme, celui de Sonny Child, gravant chez Decca à Londres quelques ballades entre soul et variété, je ne sais pas. Il est ensuite retourné aux États-Unis où il a repris son nom d'état civil de Herbie Greaves. Alors en tout cas, la chanson qu'on vient d'entendre, qu'il a écrite lui-même et interprétée bien sûr, a convaincu le grand patron des disques Atlantic, Armitage Gunn, qui est venu la réaliser lui-même au nouveau Muscle Shoals Sound Studio qui venait d'ouvrir en 1969. Alors Take a Letter Maria, c'est une chanson dont le thème appartient plutôt à la tradition country. Ça raconte quoi? Ben, un homme rentre chez lui et badaboum, il voit sa femme au lit avec un autre homme. Alors que fait-il? Il reste calme, il prend ses affaires dans le placard, il se rend à son bureau, c'est un homme voilà qui est important, il dicte une lettre à sa secrétaire, Maria, destinée à sa femme avec une copie pour l'avocat, où il dit qu'il ne désire plus rentrer chez lui et souhaite entamer une nouvelle vie. Voilà, simple et pragmatique. Alors je vous ai parlé hier du premier passage orageux de Aretha Franklin au studio Fame en janvier 1967, et quand les musiciens de Fame se sont deux ans plus tard détachés de Rick Hall, Jerry Wexler des disques Atlantic, le protecteur de Aretha Franklin, a été trop heureux de renvoyer sa protégée là-bas sans passer par Rick Hall. Et en 69, elle a repris The Wait, qui était une chanson déjà extrêmement célèbre, puisque c'est celle qui a fait connaître à la fin de l'année 68 le groupe The Band, hein, qui était jusque-là réputé été comme groupe de tournée de Bob Dylan. Et c'est d'ailleurs le guitariste du Sud, je vous en ai parlé, Duane Allman, qui accompagne à la guitare slide The Weight, interprété par Aretha Franklin. Alors, The Weight, c'était quoi ? C'était une sorte de gospel qui traduisait de façon poétique l'expérience de celui qui l'avait écrit, le guitariste canadien Robbie Robertson. Il raconte que quand il est arrivé pour la première fois à Memphis, hein, il venait du Canada, il a découvert donc ce sud profond d'où venait son camarade Levon Helm, hein, le fondateur du band. Et Robbie Robertson a imaginé comme ça un personnage de voyageur cheminant sur les routes, un personnage qui veut comme ça rendre service à tout le monde dans le but de se faire accepter. Mais les choses tournent très mal pour lui, alors, parce qu'en fait il a voulu se charger d'un poids, hein, The Weight, qu'on lui a confié, et il se rend compte que peut-être eh bien c'est une malédiction. De programme. On n'aura pas le temps d'écouter Johnny Jenkins, il n'y a pas le temps, mais je ne voulais pas vous quitter sans vous faire entendre une voix exceptionnelle, celle de Eddie Hinton. Aussi étonnant que ça puisse paraître quand on entend sa voix, il était blanc, il avait grandi dans l'Alabama, dans le cœur de la musique country, de la musique soul, ça crée des mélanges. Entre 67 et 71, il a été un des piliers comme guitariste du son de Muscle Shoals, et David Wood, son camarade, estime qu'il était le plus doué d'entre eux, puisqu'il était également compositeur et interprète. Ahmet Ertegun des Disques Atlantiques pensait que le premier album de Eddie Hinton, ce musicien tourmenté et passionné, Very Extremely Dangerous, allait susciter une vague d'enthousiasme. Hélas, c'est pas ce qui s'est produit. Eddie Hinton était une personnalité fragile, victime de ses accoutumances à diverses substances toxiques. Et sa carrière est restée sur le sable. Un destin brisé. Et il faut absolument que vous écoutiez ça. Eddie Hinton en 78, You Got Me Singing.